Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news. Hello.
Il est 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus. C'est un nouvel Instant M qui démarre.
Vous êtes en direct, allez-y.
Le procès des époux Balghani va durer un mois. Il commence lundi à la Défense. Maître Dupont-Moretti, ça va remuer. Le maire de Levallois-Perret et sa femme sont poursuivis pour, je cite, blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption, prise illégale d'intérêt et déclaration incomplète ou mensongère de situation patrimoniale. Isabelle et Patrick Balghani, un couple inséparable en politique et dans la vie, leur longévité électorale dans les Hauts-de-Seine et leur enrichissement personnel ne peut se raconter manifestement sans une plongée dans l'histoire de la droite francilienne, elle-même indissociable d'une saga immobilière. Conquérir et construire. Mon premier demande de l'argent, mon second embrasse énormément.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et je reçois ce matin David Servenet et Pierre-Antoine Souchard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Voilà, deux journalistes aguerris au micro de l'Instant M qui maîtrisent parfaitement les ramifications invraisemblables de ce dossier et qui signent pour le site d'info Les Jours. Alors Les Jours, c'est un site d'info qui a été créé il y a maintenant 3 ans. Un nouveau feuilleton. Au jour, on parle d'une obsession. 3 épisodes déjà publiés des Balkanis. C'est dire si vous allez chercher du côté du feuilleton américain, du Dallas, de la fiction. Autant couleur. Le 4e épisode sera publié lundi pour le début du procès. Le boulot est très sérieux. Il n'empêche que sur le site des Jours, on peut l'écouter, on peut le lire en écoutant une playlist sélectionnée par la rédaction.
Alors, tu t'es marié à Levallois-Perret. Tu as trouvé une maison et un job à la con.
Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick. Personne ne les entend. Patrick, tu es fort, fier et franc.
Hier encore je vivais comme un millionnaire. J'avais des dollars, je ne savais qu'en faire.
C'est dire, hein, si les hauts et les bas des époux Balkany font partie finalement de la vie quotidienne des Français, de l'actualité, des sursauts de la presse judiciaire depuis si longtemps qu'on en a fait des chansons. Vous décrivez tous les deux des gens riches, en fait des gens nés très riches, hein, puisque on va parler beaucoup d'argent dans ce procès. Patrick Balkany naît à Neuilly, son père est un ancien déporté qui a finalement fait fortune dans le prêt-à-porter de luxe. Isabelle Balkany est née à Boulogne, elle a grandi dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. C'est la famille Smadja qui, elle, a fait fortune dans le caoutchouc. Voilà. Et d'ailleurs, vous la décrivez, alors, très proche de ses électeurs, qu'elle chouchoute, hein, elle entretient le clientélisme, mais néanmoins avec les équipes très cassantes, parfois très dures, c'est-à-dire quand même porteuse d'une sorte de mépris de classe. David Servenet.
Oui, mépris de classe. Enfin, en fait, c'est des gens qui sont rentrés en politique effectivement en ayant de l'argent.
Oui.
À une époque où tout ça n'était pas du tout réglementé par la loi. Et donc, pour conquérir Levallois au départ, donc au début des années 80, ils ont investi une bonne partie de leur fortune dans la campagne électorale parce que c'était un bastion communiste.
Donc, ils ont payé de leur poche.
Et à l'époque, ça se faisait beaucoup comme ça. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, donc en 1983, Patrick Balkany est élu donc maire de Levallois. Le soir de la victoire, autour d'une coupe de champagne, il y a Charles Pasqua, il y a le couple et puis il y a quelques conseillers qui sont là autour. Et ce jour-là, Isabelle Balkany dit maintenant, il va falloir que ça rapporte. Voilà. Et encore une fois, à l'époque, rien n'est réglementé. Donc, on peut considérer que tout est permis d'une certaine manière.
Ouais.
Et donc, pour financer leur vie politique, ils vont commencer à faire un certain nombre de choses qu'on leur reproche en partie aujourd'hui, en fait.
Alors, qu'on leur reproche en partie aujourd'hui, Pierre-Antoine Souchard, dans le prochain épisode que vous allez publier, vous allez nous faire visiter les propriétés immobilières, les propriétés des Balkany. Ça ressemble à quoi, simplement pour qu'on se fasse une idée, quand on parle de patrimoine immobilier?
Alors, il y a 3 maisons. Il y a le moulin de Cossy, qui est à la limite de l'Eure et des Yvelines. Il y a l'ancienne villa Pamplemousse, qui est aux Antilles, qui appartient à Isabelle Balkany. Et il y a le riad d'Argioussi à Marrakech, au Maroc. Alors là, on ne sait pas à qui l'appartient.
Pourquoi ?
Parce que c'est une société Comment dirais-je, c'est une fiduciaire, Liechtenstein, Panama, c'est très compliqué, il y a beaucoup de sociétés écrans. Oui. Et les parts sont des parts au porteur. Donc apparemment, la maison appartiendrait à monsieur et madame Balkany, puisqu'on a retrouvé beaucoup d'affaires leur appartenant dans ces lieux.
Ouais.
Mais eux nient complètement détenir ce bien. Ils sont juste venus en vacances parce qu'ils avaient des amis généreux, parce que leur fils a loué cette maison. Enfin voilà, ils ont tout un tas d'explications qu'ils donneront au tribunal pour expliquer qu'elle ne leur appartient pas. Ce que l'accusation, au contraire, indique que c'est à eux.
C'est à eux, voilà. Donc on va raconter comment des gens qui sont nés très riches se sont considérablement enrichis. On va raconter d'où vient cet argent, comment il circule, David Servenay. Lorsque vous décrivez la prise de la mairie en 83 par Patrick Balkany, puisque elle est dans l'ombre, elle est à la manœuvre, mais elle est dans l'ombre, elle n'a jamais eu de mandat à Levallois-Perret, vous dites, c'est le casse parfait. Charles Pasqua y a échoué deux fois parce que cette mairie était tenu par les communistes, en réalité, de longue date.
Oui, parce qu'en fait, Patrick et Isabelle Balkany, c'est un couple hyper efficace en politique. Hein. Alors, on a dit un peu rapidement, c'est la tête et les jambes. C'est-à-dire qu'elle serait la tête et lui serait les jambes. Mmh. C'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, lui, c'est un animal politique qui sent très bien les coups qu'il y a à faire en termes politiques. Et elle, on va dire qu'elle a une intelligence plus stratégique, en quelque sorte. Mmh. C'est quelqu'un qui rédige très bien. C'est une ancienne journaliste au départ. Elle a travaillé à Combat. Elle a été ensuite directrice de la communication d'Europe 1, donc elle connaît parfaitement le milieu médiatico-politique.
Elle a eu pour mentor Philippe Tesson, journaliste fondateur du Quotidien de Paris.
Ah, absolument, et puis ils font partie de cette génération, c'est la jeune bande du 92, des Hauts-de-Seine, qui sous l'égide de Charles Pasqua à l'époque, avec un certain Nicolas Sarkozy, avec un Patrick Devedjian.
Qui sera envoyé à Neuilly, lui sera envoyé à Antony, c'est ça ?
Exactement, et ces gens-là en fait vont conquérir le pouvoir et faire en sorte de le garder, de le maintenir. Mm-hmm. Et Levallois, au départ, c'est une commune qui est plutôt assez populaire. Donc on va mettre par exemple en place toute une politique concernant le logement social, où petit à petit, pour schématiser, on va virer les pauvres hein, et les mettre dans d'autres communes des Hauts-de-Seine via l'office HLM de 92. Et puis on va faire en sorte d'attirer par la construction immobilière, la reconstruction immobilière de la ville, des gens qui sont plus en phase avec leur sociologie électorale, c'est-à-dire en gros beaucoup de jeunes couples avec enfants assez aisés qui petit à petit vont occuper la ville et constituer une clientèle électorale qui va faire en sorte que ces gens-là vont être réélus de mandat en mandat, à part une fois au milieu des années 90 où ils ont une traversée du désert, mais ils vont garder le pouvoir grâce à ça en fait.
Voilà. Alors il faut bien se replonger aussi dans cette France des 30 glorieuses qui à partir des années 60 va se reconstruire et se construire même tout simplement et particulièrement en région parisienne. On replonge en l'année 1964.
Paris grandit, Paris éclate. Avec sa banlieue, la capitale compte 8 millions d'habitants et plus les années passeront, plus cette population augmentera. Pour harmoniser cette extension inévitable, il existe plusieurs moyens, dont la décentralisation et l'aménagement des quartiers périphériques existants. C'est le cas pour la région de la Défense, à l'ouest de Paris, située sur les communes de Courbevoie et de Nanterre, très précisément dans le prolongement de l'avenue de la Grande Armée et dont le CNIT est l'aboutissement.
Pierre-Antoine Suchard, en 1964, on réforme la carte administrative de la région parisienne. C'est extrêmement intéressant puisqu'on va créer en fait un nouveau découpage qui va être à la fois un découpage immobilier et en même temps un découpage électoral. Plutôt David Servenay, allez-y.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle, c'est un peu le Yalta de la banlieue. C'est-à-dire qu'il y a un partage entre les gaullistes qui vont dire, nous, on va garder toutes les Hauts-de-Seine et notamment tout le quartier de la Défense qui est en train de se développer, qui va être un enjeu extrêmement important parce que ça génère ce qu'on appelle des droits à construire. Mm-hmm. Et là-dessus, les partis politiques se financent, en fait, en revendant les droits à construire aux promoteurs. D'accord ? Et puis, de l'autre côté, il y a les communistes à qui on laisse toute la ceinture rouge, en gros, qu'on connaît aujourd'hui, et notamment toute la Seine-Saint-Denis. Voilà. Et on se dit, on se fait un partage du gâteau en fait. Mmh. Et dans ce partage du gâteau, évidemment, il y a encore des poches, notamment dans les Hauts-de-Seine, qui sont des poches encore une fois populaires. Il y a des communes comme donc Levallois, Clichy-la-Garenne, Gennevilliers. Et petit à petit, il va falloir encore une fois changer cette sociologie électorale et au passage financer la vie politique sur le dos de toutes les opérations immobilières qui vont être effectuées. Voilà. Et ça, c'est la base en fait, c'est le paysage qu'on leur reproche aujourd'hui aux Balkany, puisque il y a deux aspects dans cette affaire, dans l'affaire qui va être être jugé à partir de lundi. Il y a l'aspect fraude fiscale,
oui.
D'accord, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas déclaré
oui.
un certain nombre oui. de revenus, donc dans des montages offshore très sophistiqués à l'étranger. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect corruption, mm-hmm. donc c'est de la corruption politique,
oui.
puisqu'il y a notamment deux personnages, dont un est renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui ont versé à Patrick Balkany des commissions sur des opérations fictives qui ne se sont jamais faites. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a donné, c'est quand même des millions d'euros, il y a 8 millions d'euros en jeu en tout.
Et ce sont des commissions personnelles, ce ne sont pas des commissions qui vont dans les caisses du parti.
Non, ça atterrit sur des comptes dont les juges d'instruction ont établi que les ayants droit, l'ayant droit était bien Patrick Balkany.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm.
Donc ça c'est un autre aspect, et donc il y a un cheikh saoudien qui est renvoyé devant le tribunal correctionnel, et un autre homme d'affaires belge qui est installé au Congo depuis de très longues années, qui lui n'est pas renvoyé devant le tribunal, mais qui a versé effectivement une commission assez importante pour une opération qui ne s'est jamais faite. Ce qui est un peu bizarre.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant très longtemps, les Balkany, ou en tout cas Patrick Balkany, vont se retrouver d'une manière ou d'une autre trésorier de comptes de campagne, trésorier de partis politiques, embrassant de l'argent qui est issu du marché immobilier, et va se servir au passage, va se sucrer au passage, c'est ce qu'on soupçonne.
Ouais.
C'est là-dessus qu'on enquête.
Ouais, et c'est notamment la version qui est défendue par Didier Schuller, donc qui était...
Alors Didier Schuller, il faut quand même que vous racontiez qui est Didier Schuller, parce que ça fait longtemps que médiatiquement Didier Schuller se mouille et témoigne contre les Balkany. Pierre-Antoine Souchard.
Alors Didier Schuller, c'est un énarque qui a travaillé au ministère de l'équipement dans les années 70, qui connaît très bien le monde du BTP et qui arrive en 88 comme directeur de l'office public des HLM des Hauts-de-Seine.
Dont Patrick Balkany est le président.
Patrick Balkany est le président. Didier Schuller, on le connaît bien, notamment parce que son nom est associé à celui du beau-père du juge Alphen, l'affaire Schuller-Maréchal, où il est soupçonné d'avoir orchestré une tentative de déstabilisation du juge Alphen, qui enquêtait à l'époque sur les marchés de l'office public des HLM. Donc Didier Schuller est parti en cavale, il est revenu...
À Saint-Domingue, pendant 7 ans, il a fui la France.
Ouais. Il est revenu en 2002, si ma mémoire est bonne. Il a été condamné, il dit aujourd'hui avoir purgé sa peine.
Régler sa dette.
Régler sa dette à la société, et il voulait se présenter
au
municipal à Clichy. Il pensait avoir le soutien de Patrick Balkany, il ne l'a pas eu. Et alors,
Erreur, c'est ça?
Peut-être.
Grave erreur, il s'est fait lâcher par les Balkany, du coup...
Il s'est fait lâcher, donc la vengeance, paraît-il, est un plat qui se mange froid. Donc il est allé voir le juge Van Ruinbeck pour expliquer qu'il y avait certainement eu des choses très, très louches. Et notamment, c'est lui qui apporte au juge d'instruction tous les documents, enfin une partie des documents sur la villa marocaine en disant qu'elle appartient aux Balkany.
C'est ça.
Et c'est de là que part l'affaire qui sera jugée la semaine prochaine.
Donc, via Didier Schuller, on comprend qu'il y a eu enrichissement personnel sur des affaires immobilières et sur de l'argent qui circulait, David Servenay.
Ouais, sachant que, en fait, Didier Schuller, c'est ce qu'on appelle un porteur de valise, concrètement, c'est-à-dire que lui-même, il a.
Il témoigne, dans l'enquête que vous publiez.
On l'a longuement rencontré, raconté par le menu. C'est-à-dire que c'était lui qui était chargé d'apporter les fonds en liquide, en cash, dans des comptes en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, et de faire fonctionner la machine, en quelque sorte. Voilà. Notamment, pas que pour le compte de Patrick Balkany, parce que, encore une fois, ça c'était des activités pour financer le parti, le RPR, mais ce qu'il explique aujourd'hui, c'est que sur cette manne, très importante, on parle de dizaines de millions d'euros, au bas mot, Patrick Balkany s'est servi, en gros.
C'est
la thèse que lui défend, en tout cas.
Alors, dans le premier épisode que vous avez publié sur le site des Jours, vous présentez les personnages, tel, je le dis, le démarrage d'un bon feuilleton américain, épisode 1. Alors, il y a le traître, il y a Didier Schuller, et puis il y a un certain Jean-Pierre Aubry, qui, lui, vous l'écrivez, se ferait pendre pour Patrick Balkany. Il lui doit tout. Il était responsable des sports à la mairie de Levallois. Il est devenu le patron de la Semarelp. C'est comme ça qu'on dit, société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret, qui est au cœur de cette affaire. Il faut que vous nous racontiez pourquoi, parce que là encore, l'immobilier est au cœur du procès Balkany.
Bah, en fait, la CEMAL, c'est une société d'aménagement, oui, hein, oui. comme il y en a dans, oui, oui. dans plein de communes, mais qui a aussi des filiales qui font de la promotion immobilière. Mm-hmm. Voilà. Et là, il y a un petit mélange des genres qui peut s'effectuer. Mm-hmm. C'est-à-dire que en fait, on est jugé parti, puisque d'un côté, on autorise des projets d'aménagement, mais de l'autre côté, on peut aussi jouer le rôle de promoteur immobilier. Mm-hmm. Vous voyez. Et donc, ça, manifestement, ça peut autoriser un certain nombre de détournements et de versements de commissions. Voilà. Et alors, concernant le rôle de Jean-Pierre Aubry, particulièrement dans le procès qui va avoir lieu, c'est qu'en fait, lui, il sert à un moment donné de factotum, si vous voulez, pour l'opération de la villa marocaine, et il a endossé, en quelque sorte, la responsabilité de, sans dire que lui est propriétaire de cette villa, mais en gros, il est prêt à se sacrifier, en quelque sorte, pour le compte de son patron.
Ces histoires-là, voilà. chers confrères, on les raconte depuis belle lurette. Mmh. Un jour, en janvier 2014, vous le racontez dans votre papier, une équipe de BFM TV se pointe au QG de campagne de Patrick Balkany. Il brigue à l'époque un cinquième mandat.
Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. De quoi vous tombez de l'armoire? Alors monsieur, j'ai fini de vous parler. Maintenant, vous pouvez sortir et quitter ma permanence. Gardez la caméra.
Je m'en vais.
Non, je la garde. Parce que vous nous faites chier.
En fait, les Balkany et les journalistes, les Balkany et la presse, les Balkany et les médias, ça pourrait faire un chapitre à part entière de votre enquête.
Ouais, parce que c'est un rapport d'instrumentalisation permanent.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que, en fait, ils acceptent le jeu des médias à partir du moment où ça leur est favorable. Mmh. Et ils en ont beaucoup joué, y compris, encore une fois, dans leur conquête politique, leur survie politique. Dès lors qu'ils sont mis en cause, et c'est pas nous, les médias, qui les mettons en cause.
Parce que des coups d'éclat comme ça, il y a qu'à se baisser pour en ramasser. Nous, on en a revu des dizaines et des dizaines.
Ouais.
Face caméra, avec insultes, hurlements.
Ouais, bien sûr, mais parce que derrière, il y a un enjeu aussi politique, c'est-à-dire que de cette lutte médiatique dépend aussi leur survie politique. Parce qu'en fait, ils sont plutôt appréciés localement par leurs électeurs.
Mais c'est la dernière question que j'allais vous poser, c'est-à-dire depuis tant d'années que ces dérives, ces éclats, ces scandales, ces affaires, ces mises en examen sont étalées dans la presse, on a l'impression que ça ne produit aucun effet, c'est-à-dire sur l'électorat local, aucun effet.
Ouais, mais parce que en
fait, défaite du journalisme.
Oui, on peut se poser la question. En fait, enfin, moi, je me la suis souvent posée à titre personnel, mais c'est un système clientéliste. Donc, tant qu'on satisfait les clients, en fait, les clients reviennent.
Hein, le client est content.
C'est les règles du commerce, voilà. Mais ce qui n'empêche qu'il reste important, en tout cas de notre point de vue de journaliste, de faire un travail au long cours d'enquête, ce que permet lesjours.fr et je tiens à les saluer. Nous, on est journalistes indépendants, pigistes, et c'est très bien qu'il y ait des médias comme ça qui nous permettent de faire ce travail, parce que si on fait ce travail de qualité et d'enquête et d'immersion, bah au moins on peut expliquer les ressorts d'un système qui est quand même assez complexe. Et encore une fois, moi je ne suis pas juge ni policier, je suis juste journaliste. Mmh. Je mets les choses sur la table, si les gens veulent continuer à les réélire, c'est leur choix finalement.
Voilà, donc à partir de lundi, jeudi procès, vous allez publier sur le site d'Info Les Jours, abonnez-vous.
Lesjours.fr.
Voilà, abonnez-vous, vous allez publier votre quatrième épisode et ensuite vous allez tricoter le suivi du procès et des audiences et l'histoire de ce scandale qui remonte finalement à il y a bien 40 ans. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonette Villers.
Mon cerveau, ma planète.
Oui, ce matin on reçoit Sébastien Boller. Sébastien Boller, il est docteur en neurosciences, rédacteur en chef du mensuel Cerveau Psycho. Il signe un livre absolument passionnant, Le bug humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète? Vous allez tout comprendre et vous pouvez poser toutes vos questions à Sébastien Boller au 01 45 24 7.
Et après ça, on va droit à la lobotomie.